Bonjour à ceux que je n'ai pas encore salués. Faut que je recule un peu. Faut que je me mette de côté. Faut que vous voyez mon beau t-shirt. En fait, on avait la journée d'agriculteurs chrétiens d'Alsace dimanche dernier. Et juste pour vous rappeler un peu l'histoire, c'est que en 2013, j'étais allé à une conférence de paysans en Suisse et je me suis dit pourquoi ça n'existe pas en France. C'était tellement énorme de voir tous ces agriculteurs qui se réunissaient pour prier ensemble et de voir tous les groupes de prière qui existent dans la Suisse pour les agriculteurs. Et donc je suis revenu en Alsace avec ça sur le cœur et donc j'avais demandé au Seigneur que nous puissions aussi avoir quelque chose en France, mais je ne savais pas comment démarrer et je ne me sentais pas capable non plus de faire ce travail. Et il y a 4 ans, il y a un ingénieur de la Chambre d'agriculture qui a pris sa retraite et qui s'est dit il faut qu'on réunisse les agriculteurs chrétiens. Alors, comme toujours, on se dit, on est les seuls, et il n'y a pas grand monde autour de nous. Et donc, il a contacté quelques-uns, dont moi, et on a organisé une première journée il y a 3 ans. Et on était, déjà on avait 120 adresses d'agriculteurs chrétiens en Alsace. Alors on n'a pas vérifié si les gens sont engagés ou pas, mais on sait qu'ils vont quelque part à l'église. Et donc on était 150 la première année, et donc là on était pour la 3e fois. Donc chaque fois on se réunit dans une autre ferme, et c'était vraiment encourageant de voir tous ces agriculteurs. On était nouveau 140 à peu près, des adultes et une quarantaine d'enfants. Et donc je suis content de voir que ça se développe, et entre temps il y a des gens qui se connectent entre eux et qui commencent des choses entre eux dans leur coin. Alors il y a l'aspect de ce que nous on organise en tant qu'hommes et le programme qu'on propose, et dans cette journée en fait on constate que ça c'est peut-être bien ce qu'on propose, mais il y a des gens qui se rencontrent comme par hasard et qui ont quelque chose à faire ensemble. Et donc, en fait, cette année, il y a des gens de Moselle qui sont venus, qui se sont dit aussi, pourquoi il n'y a pas quelque chose en Moselle? Et ces deux familles qui se sont retrouvées dans cette journée en Alsace, ils ont connecté. Il y a même quelqu'un du Pas-de-Calais qui est venu. Et, ouais, du Jura, enfin, il y a des gens qui viennent un peu de plus loin pour venir voir ce qui se passe. Donc on a enfin un logo officiel pour les agriculteurs chrétiens d'Alsace. Et donc avec le petit paysan, avec la fourche et le blé, avec la croix à la place du T. Et puis l'hexagone qui rappelle la France, mais encore les abeilles. Ouais. Voilà, donc merci beaucoup pour vos prières. Je sais que plusieurs ont prié et c'était une bonne journée. Alors en même temps, dans ces journées, on côtoie aussi encore une feuille. On rencontre aussi des situations difficiles, des gens qui vivent dans des situations compliquées. Et on a appris aussi que plusieurs n'ont pas pu venir, qui étaient inscrits à cause de problèmes familiaux, à cause de maladies. Il y a aussi des cancers. Donc c'est aussi une lutte. Continuer à prier pour ce monde agricole. Voilà, donc je vais commencer mon message. Ce matin, je voulais dire, comme dans Ecclésiaste 7, verset 8, mieux vaut la fin d'une chose que son commencement. Alors, je vous taquine un peu là au milieu des vacances, mais c'est la Bible, c'est la parole de Dieu. Alors, je vais un peu expliquer parce qu'il y a des situations où on se rend compte que effectivement, alors Isabelle nous a déjà parlé de Jésus qui allait jusqu'au bout. Il n'a pas juste commencé avec des promesses et puis les gens l'ont suivi et puis pour finir, il a arrêté avant d'arriver au bout. Non, il est allé jusqu'au bout de lui-même, jusqu'au bout du sacrifice, afin que nous ayons la vie. Et bien sûr, il est ressuscité. Alors pour nous, par exemple, il y a quelques semaines, on a fait la récolte du blé. Et il y a toujours quelqu'un pour dire, le blé a besoin d'être beau une seule fois. C'est quand il est dans la benne. C'est-à-dire que mieux vaut la fin du blé que son commencement, puisque il peut être beau à différents stades de l'année. Ah, il a bien levé, il est bien dense, homogène et tout. Il est bien vert et puis... Mais il peut se passer tellement de choses en cours de route. Et finalement, il a besoin d'être beau que quand il est récolté, qu'on sait qu'il est de bonne qualité, qu'on sait qu'il a de la quantité. Et donc pour moi, ça s'est bien passé cette année. Mais en France, la récolte est catastrophique. Donc il y a certains endroits plus de la moitié de pertes. Et souvent, la qualité du blé est dégradée à cause des pluies. Donc on peut aisément comprendre qu'il vaut mieux la fin que le début, parce qu'à la fin, on sait exactement ce qui se passe. J'ai aussi écouté à la radio les Jeux Olympiques, et notamment les épreuves de judo. Alors je ne sais pas si vous avez suivi, mais quand il y avait une Française ou un Français sur le tatami, on entendait les commentateurs... Ah, il est en plein dans son match, enfin je ne sais plus si on dit match, il est dans son combat, il lui marche dessus, il est vraiment bien, et tout d'un coup, quoi, catastrophe, non, pourquoi, comment, enfin donc finalement éliminé. Mais là encore je me suis dit, mieux vaut la fin que le début, parce que même si le début est bien, qu'on maîtrise, si à la fin on perd, ça sert à rien quoi. Alors, pourquoi est-ce qu'on peut rater la fin ? Et dans la parole de Dieu, on a beaucoup d'exemples de gens qui ont bien commencé, mais qui n'ont pas bien fini. Et je pense notamment au roi Salomon, qui a écrit de tellement belles choses, des paroles de sagesse, et qui finalement est passé à côté à la fin. Et pour cela, j'aimerais lire Jacques 1, verset 2. Mes frères et sœurs, considérez comme un sujet de joie parfaite les diverses épreuves que vous pouvez rencontrer. Alors je répète, mes frères et sœurs, ce matin à Josué, considérez comme un sujet de joie parfaite les diverses épreuves que vous pouvez rencontrer. Alors est-ce qu'il y a quelqu'un ce matin qui n'a pas de sujet de se réjouir ? On devrait tous être heureux. Alors il y a différentes sortes d'épreuves. D'après ce que j'ai pu constater dans les traductions, c'est aussi les tentations, les épreuves de la vie. Et donc souvent des gens ont perdu la course dans l'histoire de la Bible parce qu'ils se sont laissés détourner par des tentations ou parce qu'ils ont été découragés par des épreuves. Et un point important que j'aimerais souligner, c'est de considérer cette joie parfaite dans l'épreuve. Souvent je me dis, mais moi quand je me lève le matin, est-ce que je considère mon épreuve comme un sujet de joie? Ou est-ce que je suis en train de me dire, c'est la preuve que Dieu m'a oublié? C'est la preuve que Dieu n'écoute pas mes prières? Ou c'est la preuve que... c'est la faute des autres qui me rendent la vie difficile. Et là, on doit faire vraiment un switch complet, de se dire ce que je suis en train de vivre, les difficultés, sont pour moi un sujet de joie parfaite. Alors c'est pire qu'un combat de judo. Mais si on peut se dire cela dans son cœur, alors on appréhende les choses de manière différente. Alors on a parlé déjà ce matin de décès, on a parlé de maladie. J'aimerais pas paraître simpliste en disant prenons les différentes épreuves comme un sujet de joie. En fait, parfois on a l'impression que notre vie doit se dérouler de manière paisible, tranquille, et que Dieu s'occupe en fait que tout se passe bien, et voilà. Mais nous devons considérer que nous sommes dans une course, et pour faire le parallèle avec les Jeux Olympiques encore, il y a des épreuves, et d'ailleurs, tout ce qu'on a vu dans ces 15 derniers jours, on appelle ça des épreuves. Et quand il y a une épreuve, ça veut dire qu'il y a eu au préalable un entraînement, qu'il y a eu au préalable une formation. Par exemple, ceux qui passent les épreuves du bac, ben, ils ont été formés. Donc, quelque part, on peut comprendre que l'épreuve, bien que ce soit stressant, ben, c'est un sujet de joie parce qu'on a accompli quelque chose, on est arrivé à quelque chose. Mais ça a demandé du travail. Dans les différentes épreuves sportives, il y a un travail qu'on n'arrive pas à mesurer, nous, derrière sur notre canapé. Mais ces gens ont parfois tout donné pour pouvoir espérer une médaille. Et c'est l'apôtre Paul qui dit que « Je cours vers le but afin de remporter le prix ». Et nous devons considérer que nous sommes dans cette course. Alors c'est vrai qu'à l'échelle de notre vie sur Terre, parfois il y a des choses qui peuvent sembler incompréhensibles. Ou on peut imaginer que l'épreuve ne s'arrête pas. Et quand on parle par exemple d'un deuil, quand des enfants perdent un parent, ou quand des parents perdent un enfant, est-ce que cette épreuve peut s'arrêter ? Si on le prend sur une échelle humaine ou de notre vie sur Terre. Mais là, nous devons considérer vraiment que nous sommes dans une course et que nous voulons gagner le prix. Nous ne voulons pas nous laisser décourager. Et le prix n'est pas une médaille, mais c'est une couronne incorruptible. Je cours pour obtenir le prix de la vocation céleste. Alors, c'est peut-être un peu compliqué à expliquer, mais en tout cas, quand Jacques nous demande de considérer comme un sujet de joie parfaite, un peu plus loin, il nous parle de sagesse. Au verset 5, « Si l'un d'entre vous manque de sagesse, qu'il la demande à Dieu, qu'il la lui donnera. » Et en fait, Jacques nous encourage à passer à l'action, à faire des choses concrètement. Et nous avons besoin de sagesse pour cela, et Dieu nous le donne. Vous le savez, donc au verset 3 et 4, vous le savez, la mise à l'épreuve de votre foi produit l'endurance, mais il faut que votre endurance aille jusqu'au bout de ce qu'elle peut faire pour que vous parveniez à l'état d'adulte et soyez plein de force, des hommes et des femmes auxquels il ne manque rien. Donc l'épreuve, elle a un but, de nous former, de nous fortifier, de nous faire grandir, afin que nous soyons des personnes auxquelles il ne manque rien. Et pour cela, nous avons besoin de la sagesse de Dieu. Celui qui la demande, Dieu lui donne librement. Alors je ne sais pas pour vous, mais il y a des situations où on peut facilement comprendre que on a besoin de conseils, de sagesse. Mais on peut aussi considérer cette mise à l'épreuve comme un travail de perfectionnement. Alors, j'ai observé un peu aussi les courses de natation en particulier. Et je suis impressionné par les mouvements que font ces nageurs. La synchronisation, l'alignement toute la fluidité dans leurs mouvements pour arriver à être le plus rapide possible. Alors, c'est pas les nageurs, c'est pas on leur a pas dit, tu vas nager tous les jours jusqu'à ce que tu arrives à aller plus vite. et en répétant les courses, ben ça ira mieux. Et pour nous c'est pareil, c'est pas ben la prochaine fois ça ira mieux. Non, il y a tout un travail de préparation, il y a tout un travail où il y a un coach qui explique aux nageurs, voilà, on va travailler le retournement. Donc en fin de bassin, on va faire cet exercice et j'ai constaté cela chez toi. Il faut qu'on modifie. Après, on va travailler l'alignement. Il y a ce mouvement que tu fais mal. Donc ça ne sert à rien de répéter des choses qu'on fait mal pour aller plus vite. On arrivera peut-être à aller un peu plus vite parce qu'on devient un peu plus fort. Mais celui qui va vraiment gagner la course, c'est celui qui aura mis tous ses efforts à changer sa façon de faire, à améliorer sa façon de faire. Et après, ça passe par l'alimentation, ça passe par l'hygiène de vie, etc. Alors cette comparaison devrait nous aider à comprendre que ce n'est pas en répétant les choses inlassablement qu'on va s'améliorer. La répétition rend les choses permanentes. Alors, par exemple, si à un enfant, on lui apprend à ramasser... Pourquoi j'ai un enfant en face de moi, là? Quand un enfant lui apprend à ramasser ses affaires, à force de répéter, ça va devenir permanent. Il y en a chez qui ça marche pas. J'en ai plusieurs, hein, c'est pas forcément lui. C'est le fait de savoir ce qu'il faut changer et de répéter le changement jusqu'à ce que le geste soit parfait, jusqu'à ce que nous ayons acquis toutes les capacités pour faire les choses correctement. Donc c'est important pour nous que nous ayons cela en tête quand nous traversons une épreuve. Parfois ça nous révèle un mauvais comportement, une mauvaise habitude, parfois ça nous révèle quelque chose qu'on n'a pas compris. Et nous devons laisser notre Père nous conduire. Parfois c'est aussi des frères et sœurs qui peuvent nous conduire. Alors par exemple, un exemple concret, c'est quand... Au niveau du travail, parfois on peut travailler en regardant les tâches comme elles nous viennent. On traverse moi dans la cour, dans la ferme, on peut traverser la ferme et se dire, ah, il y a ça qu'on doit faire, mais bon, maintenant j'ai pas le temps. Et on continue, ah, mais il y a ça qu'on doit faire. Alors parfois on se dit, moi je le fais parce que sinon je vais l'oublier. Et on continue et dit, ah, il y a ça qu'on doit faire. Et ainsi, on a plein de choses qu'on doit faire, mais qu'on ne fait jamais, parce que quand on les voit, on y pense, mais comme on n'a pas le temps, après on n'y pense plus, et puis quelques jours après, on les revoit, etc. Donc, simplement le fait de noter les choses. Je me suis rendu compte que si je me fixe des objectifs clairs, alors je peux traverser la cour, voir plein de choses... Mais je sais que mon objectif n'est pas là, c'est un objectif précis. Et je me fixe un délai pour le faire, et alors je me rends compte que j'avance. Mais tout ce que je vois en cours de route, il faudrait le noter, pour pas juste y penser quand on le voit. Et après, on peut faire un nouveau programme avec tout ce qu'on a vu en cours de route, et remettre des priorités, remettre des objectifs. Et là encore, en répétant les choses, on commence à être plus efficace. C'est Denis qui nous avait parlé de cette petite astuce de noter, quand on va dans un temps de prière, d'avoir un papier, un crayon. Et comme toujours, quand on veut prier, il y a plein de choses qui nous viennent en tête, qu'on a oublié de faire. C'est simplement de noter ces choses pour pouvoir garder le focus sur le temps de prière avec le Seigneur. Et je crois que dans tous les domaines, c'est un peu le même principe. On doit apprendre à mieux gérer notre temps, à mieux gérer nos priorités. Et dans les épreuves, c'est ce qui nous saute un peu aux yeux, c'est qu'on voit des choses qui manquent. Alors là, je suis un peu... dans la théorie, hein, parce que j'essaie de le faire, je suis dans la répétition, mais il y a bien sûr encore des choses à améliorer. Alors j'aimerais, donc il y a ces épreuves qui nous arrivent. Alors on peut se réjouir d'une part parce que ça veut dire qu'on est en formation. On peut se réjouir aussi parce qu'on sait que Dieu est avec nous. Et on l'a chanté tout à l'heure dans l'intimité. Et c'est quand on est dans ces difficultés, on peut se réjouir parce que Jésus est proche de nous. Et je rappelle juste ce que j'ai dit tout à l'heure. Prendre position contre ces pensées qui viennent nous dire que Dieu ne se soucie pas de nous, c'est pour ça qu'on a des problèmes. On peut se réjouir aussi parce que l'épreuve marque aussi une étape et qu'on continue d'étape en étape, on avance. Alors, je m'habitue juste un peu à ma tablette parce que c'était une épreuve qui m'a fait évoluer. Je devais me rendre à un enterrement et l'imprimante ne voulait pas fonctionner. Et c'était un enterrement dans l'Allier, donc je pouvais pas. Il fallait que je parte. Et pas moyen de faire fonctionner l'imprimante. Donc c'était l'épreuve, le stress, encore avant comment je vais faire. Et je me suis dit, pourquoi je n'utiliserais pas ma tablette? Donc, cette épreuve m'a fait évoluer technologiquement. Et finalement, c'est quelque chose qui est assez pratique, mais il faut que je m'habitue encore. Alors, il y a l'aspect des épreuves qui nous arrivent et qu'on doit traverser pour grandir, pour avoir de la maturité. Mais un autre aspect aussi dans les épreuves, et ça a été partagé dimanche dernier par un jeune agriculteur, c'était que ils ont pris l'habitude, quand il y a des orages qui arrivent, de prier pour la protection. Et ils ont vu souvent que l'orage s'est partagé en deux au-dessus de leur ferme. Et donc, ils n'ont pas été touchés par des dégâts. Et Watchman Nee a fait un message sur la parabole de la veuve qui importune le juge. Je ne sais pas si vous connaissez ça. Il explique qu'en fait, souvent en tant que chrétien, il y a nous avec nos besoins et notre prière à Dieu. Donc il y a Dieu à qui on adresse la prière. Mais dans cette parabole, il est question aussi d'un adversaire. Et la veuve, elle vient demander que le juge lui rende justice par rapport à son adversaire. Et c'est important, nous aussi, en tant que chrétiens, qu'on se rende compte qu'il y a un adversaire et qu'il y a des épreuves que nous ne sommes pas obligés d'accepter. On n'est pas obligé de tout subir. Et je crois que c'est important qu'on se rende compte de cela. La veuve vient inlassablement importuner le juge jusqu'à ce qu'il lui fasse justice. Et donc c'est le parallèle avec Dieu, et Dieu est beaucoup. Enfin, c'est pas comparable à un juge inique, Dieu. Mais si un juge inique le fait, à combien plus forte raison Dieu le fait. Et donc cet agriculteur témoignait justement que on n'est pas obligé de tout subir. Et on peut se positionner. On a prié, on a chanté tout à l'heure qu'on parle à la tempête. Et c'est quelque chose que j'essaye aussi de faire et que j'ai déjà fait. Il y a même une formation qui existe pour les agriculteurs, pour prier pour la météo. Et c'est vraiment dans ce sens que, en fait, les éléments naturels sont censés travailler avec nous pour le bien de chacun. Et c'est l'ennemi qui utilise ces éléments naturels pour détruire. Et c'est là que nous pouvons intervenir. Dieu a donné la pluie, le vent, enfin tout ça c'est important. Et par exemple le vent, c'est quelque chose que j'aime pas trop, le vent. Mais en hiver, le vent arrache, fait tomber les branches mortes des arbres, là où il n'y a pas de jardinier. Et en fait, les éléments sont là pour le bien des hommes. Et Satan, notre adversaire, utilise parfois des choses qui sont pour notre bien, pour détruire. Et c'est là que nous pouvons intervenir en tant qu'enfants de Dieu. Et peut-être que nous devons d'abord traverser quelques épreuves pour nous en rendre compte, mais nous ne sommes pas obligés de tout admettre et de tout supporter. Et bien souvent on dit « Ah ouais, c'est comme ça, hein. C'est comme ça, que veux-tu ?» Mais Dieu veut aussi nous apprendre à nous mettre en colère. Et je crois qu'ici, il y en a qui savent le faire, de se mettre en colère contre l'ennemi, bien sûr, pas autrement. Nous pouvons nous mettre en colère contre les plans de l'ennemi sur nos familles, sur nos vies, sur nos champs, pour nous, agriculteurs, et aussi par rapport à la maladie. Alors nous ne comprenons pas tout, comme je l'ai dit tout à l'heure. C'est pas juste à l'échelle de notre vie sur Terre qu'il faut voir les choses, mais vraiment dans cet objectif, nous on veut rejoindre le Père pour l'éternité. On veut être avec lui pour l'éternité. Et c'est pour cela que je vous encourage ce matin vraiment à combattre le bon combat de la foi, à ne pas relâcher dans l'épreuve, mais vraiment à aller jusqu'à la fin. Alors, je ne sais pas si vous avez vu encore dans l'épreuve de judo, par équipe, Teddy Riner a combattu contre un judoka qui avait 60 kilos de moins que lui. Je ne sais pas si vous avez vu ça. Enfin, j'ai vu un extrait, enfin, j'avais l'impression que Teddy Riner pouvait le soulever avec un bras, et que l'autre il gesticulait. Et en fait, c'était une stratégie de l'équipe, parce que de toute façon, celui qui devait affronter Teddy Riner n'avait aucune chance, donc autant lui en mettre un qui n'avait pas de chance non plus ailleurs, pour qu'il puisse gagner et qu'on va faire des calculs de ce type-là. Et je me suis dit, ben en fait, Dieu ne fait pas ça avec nous. Il ne nous fait pas traverser des tentations, des épreuves qui n'aient été humaines. Dieu est fidèle. Et il ne permettra pas que vous soyez tentés au-delà de vos forces. Mais avec la tentation, il préparera aussi le moyen d'en sortir, afin que vous puissiez la supporter. Donc j'avais vraiment cette image de ce judoka qui était en l'air. Mais Dieu n'est pas comme ça avec nous. Il ne fait pas ce genre de stratégie. Et c'est une autre raison de nous réjouir dans l'épreuve, c'est que Dieu nous prépare le moyen d'en sortir. Alors, ce matin, je vous encourage, et dans votre vie personnelle, dans la vie d'Église, que nous puissions traverser les épreuves. Et là, nous sommes en quelque sorte aussi à l'épreuve dehors, mais avec quand même du confort. Merci Vito pour la bâche de protection. Mais nous pouvons continuer à croire et nous savons que Dieu est fidèle. Quoi qu'il nous arrive, ce n'est pas un manque de la part de Dieu, ce n'est pas un oubli de sa part, mais toute chose concourt à notre bien. Alors je veux terminer par la prière. Seigneur, nous voulons te remercier parce que tu es fidèle et parce que tu veux nous faire progresser. Et Seigneur, pardon, parce que souvent nous murmurons parce que tu nous proposes des épreuves. Et Seigneur, nous voulons vraiment considérer ces épreuves comme un sujet de joie. Parce que tu tiens toutes choses dans tes mains. Tu nous tiens, nous, dans tes mains. Tu as des projets pour nous. Et Seigneur, que nous puissions vraiment avancer et grandir les uns avec les autres. Que nous puissions aussi nous encourager les uns les autres, nous supporter, nous soutenir. Et merci parce que tu écoutes nos prières, Seigneur, que nous avons adressées tout à l'heure aussi pour les personnes en difficulté, pour les personnes qui sont dans le deuil. Seigneur, merci parce que tu as des projets pour cette Église Josué. Merci parce que tu veux nous faire marcher aussi comme ces sentinelles, où nous pouvons démasquer aussi les œuvres de l'ennemi et où nous pouvons nous mettre en colère, Seigneur, contre les œuvres de l'ennemi. Merci parce que tu nous donnes cette autorité et nous prions que tu nous donnes aussi le discernement afin que nous sachions où nous devons nous mettre en colère et où nous devons apprendre. Seigneur, nous voulons te glorifier, te bénir. Merci parce que tu es avec chaque famille, avec chacun d'entre nous. Amen.